Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Oui, Emmanuel Macron était hier au Royaume-Uni pour renforcer les relations bilatérales franco-britanniques. Bonjour Bertrand Badie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, professeur de relations internationales à Sciences Po et chercheur aux séries, co-auteur de L'État du Monde 2018, les éditions La Découverte. Alors, sommet franco-britannique traditionnel, mais dans le contexte du Brexit, qui montre un renforcement notable de la coopération franco-britannique, notamment un engagement militaire au Sahel inédit du Royaume-Uni, initiative présidentielle aussi, qui s'ajoute à une longue série de rapprochements l'année dernière et cette année, relance franco-allemande, annonce d'un traité d'amitié franco-italien en 2018, visite en Chine, réception du président Erdogan, sans compter le Libanais Saad Hariri ou le Palestinien Mahmoud Abbas. La diplomatie élyséenne est intense en relations bilatérales, quitte à prendre quelques risques, alors que dans les sommets de 2017, le président français s'est fait le défenseur du multilatéralisme, à l'ONU notamment. La France est traditionnellement championne, mais nous sommes dans un contexte, vous l'aviez souvent souligné Bertrand Badie, de retour souverainiste. L'ONU est affaiblie par les vétos. L'approche du président français se fait donc plus offensive, une alternative au rapport de force généralisé. Il parlait à l'ONU de redonner ses armes au multilatéralisme et parmi elles, justement, de bonnes relations bilatérales, base peut-être d'un multilatéralisme plus vaste. En tout cas, parler à tout le monde signifie-t-il créer une plus-value de confiance? Pour commencer, Bertrand Badie, est-ce qu'il y a aujourd'hui une nécessité, une urgence à défendre l'ONU, à restaurer, disons, ce multilatéralisme?
Alors, il faut voir d'où on part. C'est-à-dire que la norme, ça a été, pendant des décennies et même des siècles, le bilatéralisme. Le multilatéralisme, dans l'histoire des relations internationales, c'est récent. On commence à le voir poindre à l'horizon vers la fin du 19e siècle. Il va se développer et échouer immédiatement au lendemain de la Première Guerre mondiale avec la Société des Nations. Il va redémarrer en 1945 avec les Nations Unies et de façon assez modérée et ambiguë, puisque on va immédiatement doter 5 États d'un pouvoir de veto. Le veto, c'est la revanche de l'unilatéral sur le multilatéral. Bref, la norme dans l'histoire des relations internationales, c'est le bilatéral. Et d'ailleurs, notre armature institutionnelle, comme celle d'ailleurs de tous les autres pays, est faite pour servir ce bilatéralisme, puisque notre réseau d'ambassades, n'oubliez pas que la France a le second plus grand réseau d'ambassades dans le monde, ce réseau est fait pour entretenir des relations bilatérales. Là où il y a eu rupture, c'est effectivement ce très intéressant discours de Emmanuel Macron devant l'Assemblée générale des Nations Unies le 19 septembre dernier. Alors, c'était un discours d'autant plus remarqué que quelques heures auparavant, Donald Trump avait vanté l'intérêt national, voire carrément l'égoïsme national, et qu'Emmanuel Macron, président de la République française, arrivait en disant « Eh bien, nous, en France, nous considérons que, vu la complexité du monde actuel, seule une gouvernance globale est possible et que donc il faut développer le multilatéralisme. »
Et alors, lui redonner ses armes, comme il disait, ça voudrait dire quoi aujourd'hui?
Alors, lorsqu'on parle de multilatéralisme, il faut voir deux plans. Il y a le plan très particulier, mais tout à fait central, de la sécurité collective, où le multilatéralisme n'a jamais véritablement fonctionné, puisqu'il y a ce pouvoir de veto et puisque les puissances sont extrêmement jalouses de leurs prérogatives en matière de souveraineté, en matière de choix de politique étrangère, en matière surtout de promotion de leur sécurité nationale. Et il y a l'autre aspect du multilatéralisme, qui est ce que Kofi Annan, le grand Kofi Annan, appelait le multilatéralisme social, c'est-à-dire cette coopération intense entre les États en vue d'assurer le développement social de la planète, dont la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité environnementale et bien d'autres encore. Et regardons de temps en temps les trains qui arrivent à l'heure. C'est-à-dire que, au nom de ce multilatéralisme social, beaucoup de choses positives ont été accomplies. L'éradication de la variole et la vaccination généralisée sur un continent comme l'Afrique, c'est grâce à l'OMS.
Reconnaissons ça, l'action de ces grands programmes sociaux multilatéraux, voilà. Mais dans une période où, c'est vous qui le disiez aussi souvent l'année dernière, on assiste à un retour des grandes décisions unilatérales, par exemple les Américains qui s'engagent en 2003 dans la guerre d'Irak, un retour des veto également, par exemple, encore une fois, multiple veto sur la question syrienne. Face à ça, Emmanuel Macron a proposé quelques initiatives, un groupe de contact sur la Syrie. En Iran, c'est la visite même qui devient un enjeu alors qu'il veut à tout prix sauvegarder cet accord sur le nucléaire. On a trois initiatives qui sont un peu en suspens quand même du côté multilatéral.
Alors on pourrait encore en trouver d'autres, notamment dans les rapports avec l'Afrique. Et il est à ce moment-là très difficile de voir où passe la ligne entre une conception d'un bilatéralisme instrumental destiné en quelque sorte à mettre en orbite le multilatéralisme. C'est-à-dire la France prend une initiative avec ou en direction d'un autre partenaire pour pouvoir amener avec elle le wagon, le train même du multilatéralisme, ou alors ce que j'appellerais le bilatéralisme égoïste, c'est-à-dire on profite d'une confusion globale pour se servir en priorité et pour exercer sa propre loi. C'est très difficile de faire la part de l'un et de l'autre, mais c'est vrai que le multilatéralisme, même chez Emmanuel Macron, a un ennemi qui est la volonté d'engranger des points pour son propre compte, pour ce qui est présenté comme l'intérêt national, l'intérêt de la France, mettre en quelque sorte la France en première ligne, voire se mettre soi-même en première ligne. L'exemple syrien est très intéressant. Lorsque la France prend une initiative en proposant ce groupe de contact à propos de la Syrie, qui d'ailleurs n'a été relevé par personne, donc de ce point de vue-là, c'est un peu un échec, certains vous diront que c'est une façon d'occuper la scène internationale, de se montrer, voire d'assurer le retour de la France dans l'espace moyen-oriental où elle a été un petit peu marginalisée ces dernières années. D'autres, plus généreux ou plus optimistes, vous diront c'est une façon de remettre la communauté internationale en selle pour assurer la co-gestion de la crise extrêmement complexe qui affecte la Syrie et l'Irak. Vous voyez que les deux interprétations vont presque de pair.
Et alors, il y a même, on va essayer de faire une toute petite typologie, mais de ces usages du bilatéralisme, il y a aussi un bilatéralisme assez clairement assumé, qui correspond à des objectifs stratégiques, comme la visite aux Émirats Arabes Unis, premier ensemble de pays choisi pour la visite dans le Golfe d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que, disait-il, les Émirats Arabes Unis, partenaires de confiance dans l'antiterrorisme.
Oui, là se pose un double problème de fond. C'est-à-dire, est-ce que le bilatéral peut permettre de prendre un raccourci et de hâter une décision qui serait favorable aux deux parties prenantes, ou est-ce que le bilatéral est un moyen de maintenir quelque chose qui ressemble au rêve impérial français ? C'est-à-dire, la diplomatie française a toujours été habitée par ce désir d'être présent un peu partout dans la planète. Est-ce que c'est le bon choix ? Je n'en suis pas sûr. C'est très coûteux et c'est aussi porteur d'effets pervers, parce que quand vous êtes tout seul présent quelque part dans la planète, on va immédiatement vous soupçonner de puissance et de manipulation en faveur de vos propres intérêts.
Et une diplomatie bilatérale qui ne va pas sans effet d'ambiguïté, voire friction, comme cette visite qu'il disait de courtoisie ou personnelle au Maroc, très commentée évidemment en Algérie. Et puis dernière chose, alors, si on parle d'un usage bilatéral en vue de restaurer le multilatéralisme, on a vu cette visite d'Erdogan dans laquelle Emmanuel Macron s'est voulu le porte-parole un peu de l'Union européenne. Dans cette visite chinoise, il y avait également derrière l'intention d'insérer l'Union européenne dans les routes de la soie, là encore ce rôle de porte-parole. Est-ce que ça vous semble un des axes de la diplomatie française aujourd'hui ?
Vous savez, on ne peut pas reprocher à un État, à une diplomatie, de continuer à pratiquer le jeu bilatéral. Ne serait-ce que parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce pays a l'armature pour cela. Sa diplomatie est faite pour ça. La diplomatie, c'est fait pour gérer les contentieux qu'on a avec les autres. Donc le passage par le bilatéral est nécessaire. La faute, ce serait de détacher un sujet et un enjeu de son cadre multilatéral. Dans le monde, aujourd'hui, fait d'interdépendance, on ne peut pas arriver au bout de la solution d'un problème sans le placer dans le cadre du multilatéralisme. Que l'on emprunte des voies bilatérales pour cela, c'est très bien. Le risque que je vois, c'est que souvent ces initiatives bilatérales, on parlait de la Libye notamment, voire de la Syrie, sont auto-finalisées. C'est-à-dire, on fait du bilatéral pour arriver à un résultat qui vous sera profitable en tant qu'État-nation. Et ça, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que, d'abord, c'est dangereux. Ça donne l'impression d'un nouvel impérialisme et cela suscite beaucoup de méfiance partout dans le monde. Et d'autre part, parce que c'est improductif dans la mesure où seule une décision multilatérale a une chance d'avoir un effet sur un monde qui est de plus en plus interdépendant.
Parler à tout le monde, c'est peut-être cela, ou la diplomatie de l'en même temps, hein, comme l'appelait Marc Semaux l'année dernière. Merci beaucoup en tout cas Bertrand Badi, professeur de relations internationales à Sciences Po, chercheur aux séries, auteur dernièrement de l'État du monde 2018 aux éditions La Découverte, sous-titré Un monde en quête d'alternatives. N'hésitez pas à vous rendre sur la page et le fil Twitter des enjeux internationaux, podcasté si vous ne vous le levez pas tous les jours avant 6h45. Et à lundi pour une autre évaluation diplomatique, la tournée de Mike Pence, le vice-président américain au Moyen-Orient, ou plutôt ce qu'il reste aux États-Unis d'amis au Moyen-Orient, peut-être un mois après les propos polémiques de Donald Trump sur Israël. Pence vient-il cueillir les fruits ou évaluer les dégâts?